Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Alternative. Aujourd'hui, on parle des luttes qui se mènent en ce moment depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais, sur le front social en Algérie. Et on parle précisément de la grève déclenchée, d'une grève cyclique, si j'ai bien compris, 2 jours par semaine, dans le secteur de l'éducation. Il y a eu notamment un appel de 4 syndicats, donc une grève cyclique depuis l'adoption d'un nouveau statut particulier des fonctionnaires de l'éducation. Auparavant, donc, il y avait des grèves de lycéens qui protestaient contre la charge élevée, donc au niveau de leur scolarité. Il y a la grève aussi, la grogne dans le secteur de la santé, notamment avec les médecins et auparavant avec les étudiants de la médecine. Donc, on va discuter aujourd'hui de ces luttes-là qui se mènent. On a baptisé notre émission Grève dans le secteur de l'éducation en Algérie, une lutte pour la dignité. Et on a le grand plaisir d'échanger avec 2 syndicalistes que je vous présente tout de suite, Monsieur Ziani Boualem du CNAPEST, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir sur notre plateau, et Monsieur Samir Borj, enseignant aussi, syndicaliste, membre du CELA. CELA, c'est le Conseil des enseignants des lycées d'Algérie. Voilà, donc bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Alternative. J'aimerais donc vous entendre d'abord, nous expliquer à ceux qui nous suivent, ceux qui vont suivre cette émission-là, c'est quoi la genèse du conflit. Peut-être, Monsieur Samir Borj.
Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute, aux auditeurs. Donc, c'est vrai, la situation actuelle. Donc, on va faire un point d'actualité. C'est vrai, le secteur de l'enseignement, il est en ébullition ces derniers mois. Depuis la promulgation du statut particulier de l'éducation, tant attendu par les enseignants, mais une fois promulgué ce statut particulier, et donc il est promulgué le 13 janvier de 2025, juste après sa promulgation. Donc le secteur de l'enseignement il s'est déclenché une multitude de grèves et de rassemblements qu'on voit un peu partout, tous les corps. Et comme vous savez, le secteur de l'enseignement, il est caractérisé par une multitude d'abord de corps, et chaque corps a son propre syndicat. Donc c'est ce qu'on appelle caractérisé par le corporatisme. Donc, c'est vrai, il y a un effritement de syndicats, et tous les corps, dans leur cadre syndical, ils montrent qu'ils sont mécontents, ils refusent ce statut particulier tant attendu, parce que ce statut particulier, il est dans le programme de monsieur électoral de monsieur le président. Il a promis de divulguer de ce statut particulier. Une fois promulgué ce statut particulier, donc c'est sûr, c'est chose due, chose faite, et elle est là. Et donc tous les corps, ils sont mécontents et commencent à déclencher des grèves pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord sur le contenu et sur le statut particulier et le régime indemnitaire. Donc, qui n'est pas en faveur des enseignants et des travailleurs de l'éducation. Donc, la réaction des travailleurs, elle est immédiate, l'insatisfaction générale des différents corps et suite aux protestations déclenchées, mais faibles par l'effritement et le corporatisme. Voilà, donc c'est juste pour mettre le point pour commencer. Et je laisse la parole à mon camarade Boyle.
Parfait. Boualem Ziani, pour justement expliquer nous pourquoi les membres donc des syndicats, des quatre syndicats notamment, protestent contre l'adoption de ce statut. Qu'est-ce qu'il contient comme mesure, comme décision, donc qui va à l'encontre des intérêts des enseignants et des fonctionnaires du secteur de l'éducation?
Tout d'abord, M. Filaoun, merci pour l'invitation. J'espère qu'on va essayer de contribuer un peu pour lui, car c'est ce que j'écoute un peu sur la situation syndicale et ces mouvements qui sont un peu l'espoir que je me fais. Et moi, je suis pas du CNAPES, je suis pas du syndicat. Moi, j'appartiens à SATEF, syndicat autonome du travail, l'éducation et la formation, créé juste
Désolé,
après.
oui, je m'étais trompé, désolé, oui.
Juste créé après 88, au premier. Multisyndical, je veux dire, il n'y a pas de syndicat corporatif au début, je veux dire les syndicats de tous les corps d'éducation. Parmi les syndicats qui existent, parmi les premiers syndicats agréés, c'est SATEF et d'autres syndicats qui ne sont pas en corporatif dès le début, dans les années 90. Maintenant, je disais, je veux dire, ce mouvement de grève, c'est un espoir quelque part, malgré le corporatisme, mais c'est un espoir parce que si on suit un peu la suite logique du pouvoir qui essaye de normaliser d'une manière autoritaire toute contestation sociale, toute revendication. On rappelle qu'il a adopté un peu l'idée du texte sur les syndicats, l'activité syndicale, on a déjà parlé sur ça, c'est-à-dire où il a réduit toute expression syndicale, il veut réduire toute expression dans la société, notamment en cassant un peu les syndicats qui sont un peu importants. Et sans oublier que dès les derniers 20 ans, les derniers, même depuis les années 90, où les luttes, il y a beaucoup de luttes dans les structures de l'éducation nationale, elles ont été parmi les premiers, plus la santé, etc. Je veux dire, où il y a un mouvement durant des années, 2001, avant, etc. Il y a toujours un mouvement dans l'éducation. Et là, le pouvoir veut un peu taire tous les enseignants, tous les travailleurs de l'éducation globalement. Et en adoptant un peu la suite logique, ça veut dire on peut pas la conjoncturer, c'est un produit des années passées. Ça veut dire faut rappeler un peu lorsqu'il y a les années 90, il voulait un peu avec le plan d'ajustement structurel de refaire un peu le désengagement de l'État, l'austérité. Ça veut dire comme si l'État dépense beaucoup plus sur le secteur public et ils essaient un peu de le privatiser, de l'exclure. Et ça rentre à la déstructuration de la fonction publique en commençant par essayer de faire des statuts particuliers de chaque secteur. Avant, il y a un secteur général de télétravailleurs, un statut général des travailleurs. Maintenant, il y a sur chaque secteur, on est de la fonction publique, il y a 0,6, 0,3, 0,6 dans la fonction publique. Mais dans chaque secteur dans la fonction publique, il y a les statuts particuliers. Et à l'intérieur des statuts particuliers, maintenant, nous remarquons que il y a le corporatisme qui est là, chacun essaye de défendre sa part de gâteau dans tout ça. Et cette résistance vient de ça. Ça veut dire qu'il y a l'espoir que, malgré les interdictions à la grève, les gens, suite à la réaction, première réaction à l'information du public, un peu qui existait avant la publication du journal officiel, il y a une réaction énorme de tous les secteurs, de toutes les l'éducation. Il y a des grèves, il y a des rassemblements, il y a des manifestations au niveau des directions d'éducation. C'est déjà bien, ça veut dire c'est un espace d'expression. Malgré avec la faiblesse qu'on a dit notre camarade, ça veut dire il n'y a pas d'unité d'action, il n'y a pas d'unité syndicale, il n'y a pas de. Et malgré tout, les revendications sont les mêmes parce que sont les mêmes, mais le pouvoir a fait tout pour qu'il crée des syndicats corporatistes. Nous trouvons dans un corps de l'éducation, un seul corps, soit l'adjoint d'éducation, soit les intérêts, soit les dirigeants de laboratoire, nous trouverons 4, 5, 3 syndicats autonomes, le même corps, ils ne sont pas nombreux, les directeurs, la même chose, etc. Ça veut dire le corporatisme est allé plus loin, il est encouragé par le pouvoir parce que chaque fois que, il voit que dans le corporatisme, dans l'encouragement des créations des syndicats autonomes, il a ouvert toutes les portes pour la création des syndicats, ils ont encouragé. Là, il va casser un peu la force du travailleur, notamment sur l'éducation, qui veulent un peu traîner un peu les autres corps. Et la santé, c'est la même chose. Ça veut dire, dans la santé encore, parce que c'est un secteur qui essaie de résister sur des années, il a, même l'université, etc. Ça veut dire, là, il a essayé d'encourager les corporatistes. Le corporatisme, le syndicat corporatiste, etc. Ça veut dire, La santé, c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup de syndicats de corporations. Hein. Chaque, les infirmiers syndicats, les médecins spécialistes, les médecins simples, les professeurs, tout le monde a son syndicat dans les deux secteurs. Et c'est maladie qu'on doit, on doit réfléchir, les gens, les syndicats militants, on doit réfléchir comment un peu créer des liens avec les syndicats, avec ceux qui existent, qui luttent, mais essayer de coordonner avec eux une plateforme commune. Là, on peut arracher des choses. Parce qu'en pensant comme ça, le statut particulier pour tous les corps de l'éducation, on ne peut pas, ça veut dire, avec la rapport de force des enseignants, les quatre syndicats enseignants faisant 2 jours de grève, le pouvoir va essayer de nous lever quelques pages qui concernent un peu l'enseignant et va les corriger, alors que il va corriger tout le statut particulier pour tous les corps, parce que il faut rappeler que l'échec de ce statut. En 2008, ils ont fait un statut sur la base de la qualification, et juste après, il y a des contestations, ils ont refait le même statut en 2012, en essayant de corriger un peu les lacunes qui existent à l'intérieur. Et maintenant, depuis 2015, que ce chantier de statut particulier est ouvert, il y a beaucoup de travail fait. Mais il était remis en cause, un travail par les syndicalistes. Nous rappelons que notre camarade qui est du CLA, Achoridi, il était par un rédacteur de l'avant, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, c'est lui qui a fait un peu la synthèse de proposition des syndicats sur le statut depuis des années, depuis 2015. Et maintenant, ce nouveau statut, c'est une déception totale, parce que c'est une déception totale parce que l'attente, on a attendu trop, il y a trop de promesses. Notamment par le président de la République qui a déclaré qu'on va mettre sur nos têtes les enseignants et le corps de l'éducation. Et maintenant, c'est une déception totale. Tous les corps, lorsqu'on dit tous les corps, ça veut dire en parlant de directeurs les plus gradés au niveau de l'éducation jusqu'au dernier, sans oublier, bien sûr, ceux qui ont toujours précaires, qui ne sont pas considérés comme de l'éducation, notamment les corps communs et les ouvriers professionnels avec les deux catégories, notamment les contractuels qui sont contractuels avec depuis 2006, et sans oublier les derniers arrivants, les esclaves, ce qu'on appelle les agents du service qui sont sans poste, sans rien, ils sont des gens qui ont fait leur poste notamment dans l'administration au niveau des APC, etc., avec un salaire minable dans le cadre de l'ANEM, un régime esclavagiste, l'ANEM avec leur diplôme qui travaille avec 570 000 et quelque chose comme ça veut dire avec des miettes. Maintenant, ils ont été intégrés, mais mal intégrés, sans statut, sans cadre, sans salaire digne. Et le problème éternel qui est maintenant dans l'éducation, c'est des questions. On va revenir sur les contractuels qui sont toujours, qui demandent l'intégration, etc. Les contractuels dans les soignants. Et voilà. Globalement, c'est ça, mais une déception totale. C'est un espoir des luttes. Il y a des luttes. C'est un espoir au niveau de la santé, même au niveau d'autres secteurs. Ça veut dire, il y a des contestations, etc. Mais dans l'éducation, c'est affirmé parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui essaient de faire des choses. Les intendants sont presque un mois de grève, c'est un cas particulier au niveau de l'éducation, qui sont en grève depuis un mois maintenant, 15 jours renouvelables, et tous les corps autres. Et le pouvoir a reconnu une fois un corps qui a échoué dans la rédaction en installant juste après, lorsqu'il a installé une commission, soi-disant d'écoute, pour écouter les propositions du syndicat, ça veut dire qu'il a échoué à nous rédiger, à nous promulguer un statut digne que ce qu'on attend en tant que secteur de l'éducation. Voilà.
Justement, tous les deux, vous avez évoqué la question du corporatisme, mais ça a permis quand même à 4 organisations syndicales, aux syndicats autonomes, de signer un appel commun pour cette grève cyclique. Donc, c'est quand même, il y a le corporatisme qui n'existe pas, qui n'a pas été créé ces dernières années. Il existe au moins depuis les débuts des années 2000. Il y a rien de, je ne vois rien de nouveau là-dessus, mais j'ai quand même une question pour vous, monsieur Boualem Ziani. Pourquoi le SATEF, qui est votre syndicat, n'a pas signé justement cet appel à la grève?
Et justement, ça veut dire la question qu'on se pose en tant que syndicaliste, ça veut dire nous avons une tentative de création d'une confédération syndicale autonome, ça veut dire algérienne, c'est ce qu'on appelle CSA avec tel syndicat dans la fonction publique. Normalement, l'appel doit mener de la confédération. Nous savons qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas à avoir l'agrément, il y a des problèmes, etc., etc. à l'intérieur, mais normalement, c'est le CAC qui prend en charge les questionnaires, vu l'importance des statuts particuliers, notamment, parce qu'ils sont tous liés à la 0306, c'est-à-dire le statut de la générale de la fonction publique. Normalement, c'est le CSA. Il arrive que le CSA, il a des problèmes internes, plus la repression du pouvoir qui essaie un peu de contrôler, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont donné un peu le bâton au pouvoir de les casser, à savoir ne pas organiser leur congrès, etc., les problèmes bureaucratiques à l'intérieur, les problèmes yani, qui traversent un peu les syndicats, et n'ont pas pu rassembler. Maintenant, il y a des tentatives de création de coordination des corporations. Ça veut dire les quatre syndicats enseignants, ils sont sur une coordination des enseignants. C'est pas facile pour nous, tant que SATEF, tant que syndicat de tous les travailleurs. Là, on a des corps communs, des ouvriers professionnels, des adjoints d'éducation, des enseignants. On a tous les corps faire grève avec pour une revendication d'une corporation. C'est pas facile. C'est pour ça que nous remarquons que les syndicats qui ne sont pas corporatistes actuellement, je cite l'UPEF, je cite beaucoup de syndicats qui ne sont pas corporatistes, ils n'arrivent pas à faire bouger les choses parce que le corporatisme, il a pris le dessus sur toutes les choses. Et les travailleurs essayent de se constituer en corporation, c'est plus facile de mobiliser. Lorsqu'on est enseignant, c'est plus facile de m'adresser aux enseignants parce qu'ils sont dans un lieu qui s'appelle celle des profs. Je peux prendre la parole, fermer la porte, prendre la parole, sensibiliser. Là, à faire des assemblées générales avec tout le monde, avec des intérêts différents, parce qu'il y a un problème énorme au niveau de l'éducation. Ça veut dire, c'est pas le corporatisme, il a créé des divisions énormes entre les travailleurs. Personne ne peut croire à l'autre. Il faut retourner un peu l'espoir en organisant. Personnellement, on a organisé des assemblées générales, c'est-à-dire tout le monde, tant que ça t'aide, dans l'établissement scolaire, où il y a tout le monde, on a donné la parole à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai remarqué que l'enseignant ne connaît pas la situation d'un joint d'éducation, il ne connaît pas la situation d'un corps commun. Alors avant, il y a des assemblées générales unitaires, à la base, on discute, on débat des questions qui concernent l'éducation globalement, sans pour autant mettre notre casquette de corporatiste d'enseignant ou dans l'Assemblée générale. Au contraire, on parle des syndicats, on parle des conditions de travail, on parle des statuts, salaire, on parlait sur des questions de l'actualité qui nous unit. On ne parlait pas qu'autant qu'enseignant, je veux dire avec ma blouse blanche, etc., l'autre avec d'autres couleurs, etc. Mais on gardait. C'est l'espoir qu'on essaye de maintenant, tant que ça tape, tant que ça syndicaliste à l'intérieur du SATAP, de dire aux gens de mes interventions dans le sens où il faut revenir à la base, revenir à la solidarité au niveau de la base, entre les corps de l'éducation. Lorsqu'un corps de l'éducation fait grève, c'est malheureux qu'il départ travail. Ça veut dire que dans un même établissement scolaire, on remarque que les enseignants vont faire grève alors que les autres vont travailler parce qu'ils n'appartiennent pas à le même syndicat. Ça ne donne pas la force et ça ne crée pas un rapport de force nécessaire pour un peu fléchir, un peu accaracher un peu les revendications du pouvoir.
Très bien. On a parlé de quatre syndicats, plus le vôtre, le SATEF, ce sont tous des syndicats autonomes. Ma question pour Samuel Borde, justement, quelle a été l'attitude du syndicat affilié à la centrale syndicale qui est l'UGTA. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle encore le CET, le syndicat de l'éducation des travailleurs de l'éducation, mais il y a un syndicat qui était quand même fort, donc qui était affilié à l'UGTA, qui a activé les dernières années. Quelle a été son attitude vis-à-vis de ce mouvement de grève que le secteur de l'éducation connaît? Dites-nous aussi comment les premiers jours de grève ont été suivis. On sait qu'il y a eu de la répression. On a parlé de l'arrestation de votre secrétaire général, de votre propre syndicat, donc le CELA. Comment ça a été cette première semaine de grève?
Donc, historiquement, donc l'UGTA existait comme centrale syndicale. Donc, et après la constitution de 1989, qui a permis la création de liberté syndicale, de syndicats autonomes. Le syndicat qui défend affiliée à l'UGTA, c'est la FNTU. C'est la FNTU. C'est la FNTU. Donc la FNTU, elle s'est exprimée à travers les Nahar ou Sorok. Ils les ont invités à plusieurs reprises. Ils sont passés à la télévision pour s'exprimer sur le statut particulier. Ils ne se sont pas exprimés sur la grève. Ils se sont exprimés sur le statut particulier. Ils ont montré qu'ils sont satisfaits, ils sont d'accord que le statut particulier et le régime indemnitaire nouveau, il apporte des acquis intéressants et importants pour les travailleurs. Donc, ils sont toujours dans la même ligne des décideurs et du pouvoir. Donc, ils ne sont pas exprimés sur le contenu de la grève ni sur le contenu des protestations. Donc, ce qui se passe actuellement, donc l'actualité, c'est qu'il y a, et on se rencontre avec quatre syndicats qui représentent le CLAS, se rencontre avec le CNAPEST et le SNAPEST et MEGEL sur une plateforme de revendication commune qui est sur certains points bien précis. Justement, on voit pas le, on peut pas, on voit pas les autres syndicats s'approcher à ce regroupement syndical. Justement, le pouvoir a réussi à diviser par le corporatisme, à diviser le bloc des travailleurs dans l'éducation entre des syndicats qui représente l'administration, et il a même réussi à décor. Par exemple, au lycée, tu trouves un seul censeur, il a son propre syndicat. Il est seul dans le lycée, il a son propre syndicat. Donc, l'agent de l'orientation pédagogique, il a son syndicat. Il est seul dans le lycée, il a son syndicat. Justement, le directeur, le proviseur, il est seul dans le lycée, il a son syndicat. Donc le pouvoir, il a bien réussi à diviser le travailleur pour affaiblir la force des travailleurs. Donc, le contenu de la plateforme de revendication qui est axée sur la révision du statut particulier. Donc, et c'est un statut particulier qui n'encourage pas la promotion dans le secteur, dans la carrière de l'enseignant. C'est le même statut particulier. Le comble, c'est le statut particulier de 2008, corrigé 2012. Ils nous ont conduit le même statut, ils n'ont rien changé. Le statut particulier de 2025, il est exactement le même, copié-collé, ils n'ont rien changé. C'est pour ça qu'on le refuse. Seulement, qu'est-ce qu'il a apporté comme nouveau ce statut particulier dans cette période, dans la naissance d'un statut particulier, dans sa naissance, il apporte la réintégration, l'intégration des enseignants. Donc, des enseignants d'une catégorie à une autre catégorie supérieure. Voilà, donc, cette intégration a permis à une frange de professeurs d'être intégrés dans une catégorie supérieure. Mais pour une période, la période de sa naissance, où une fois passée cette période, on revient au statut particulier tel qu'il est promulgué 2012. Donc, et il y a des conditions pour, même dans ce volet positif qui est l'intégration, il y a des conditions pour passer dans l'intégration, pour bénéficier de l'intégration. Donc, par exemple, entre une année jusqu'à 4 ans, il n'a pas le droit d'être intégré dans une catégorie supérieure. De 4 ans à 7 ans, il doit faire une formation. Après 7 ans, il peut être intégré dans une catégorie supérieure. Et ainsi de suite, les autres catégories. Ça, c'est en ce qui concerne l'intégration. Mais c'est positif. Ça a permis. Et dans cette intégration, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de travailleurs qui ont été lésés. Ils n'ont pas bénéficié de cet avantage qui est l'intégration. Entre une année et 4 années, ils n'ont pas bougé. Et même les enseignants qui sont donc ils ont changé donc dans le contenu ils ont changé l'appellation des catégories. Ils ont changé l'appellation des catégories. Donc par exemple un professeur au lycée, il entre dans PES classé à la 13 après Sanfouette classification 1 et après classification 2 et professeur émérite, Oustad Moumiz, après combien d'années? Donc ça c'est le il y a entre l'intervalle, il y a un intervalle, beaucoup d'enseignants, énormément, plus de 200 000 enseignants et des travailleurs qui n'ont pas été touchés par cette mesure de l'intégration. Une fois l'intégration terminée, l'enseignant revient à sa case de départ, au statut particulier de 2000. 2000 et c'est un statut particulier qui apporte son contenu, le nouveau. Je parle du nouveau statut particulier de 2025. Il apporte quelques modifications qu'on peut qualifier positives. Par exemple, diminuer l'âge de retraite à l'enseignant qui arrive à la fin de sa carrière, on peut lui diminuer de 3 années. De 3 années, il peut partir à la retraite anticipée, on peut dire anticipée, moins de 3 années, et pour les femmes et pour les hommes. Donc, ils ont aussi apporté un autre changement, c'est que les postes aménagés pour les enseignants, on va voir maintenant le décret d'application, on n'a pas encore vu les postes aménagés pour les enseignants malades et ainsi de suite. Et la réduction des volumes horaires pour les enseignants qui dépassent le 10e échelon. Il y a une possibilité de réduire le volume horaire pour les enseignants. Il y a aussi, ils ont, dans ce statut particulier, ils ont avancé qu'ils vont réduire le quorum de chaque palier, primaire, CEM, le quorum horaire. Ça veut dire, nous, par exemple, au lycée, on enseignait 18, soi-disant 18 heures par semaine, mais dans le nouveau, on va enseigner 16 heures par semaine. On peut dire c'est des acquis, c'est positif, mais c'est très peu. On s'attendait aussi, je te parle, le contenu, pourquoi les causes, les vraies causes de ce mouvement de protestation. Le régime indemnitaire qui apporte sur une seule prime, qui est la prime de pédagogie. Ils ont appelé ça la prime de pédagogie, qui était 15%, ils l'ont augmenté jusqu'à 45%, donc ils nous ont rajouté 30% dans le régime indemnitaire. Nous, les enseignants, les travailleurs, on espérait toucher les autres primes, à au moins 2, 3, 4 primes qu'on peut augmenter. Malheureusement, ils ont touché une seule prime, et c'est très insuffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va bénéficier? Chose positive, juste les enseignants qui n'ont pas été intégrés et qui restent dans la même case. Donc, ils vont bénéficier uniquement de 30% d'augmentation de salaire. Donc, et ça va vraiment, la majorité était mécontente. Ça, c'est le contenu. Je vous parle aussi de contenu que les travailleurs et les enseignants ne sont pas d'accord. C'est le volet pour la première fois. Pour la première fois, ils nous ont rajouté des articles dans le statut particulier, des articles de discipline et de répression. Et c'est comme si c'était un code pénal. Ce n'est pas un code qui gère la carrière d'un enseignant. C'est un code pénal. Pour la première fois, dans un statut particulier qui gère la vie d'un enseignant. Normalement, les mesures de discipline. Il y a le statut général de la fonction publique 0306 il y a un volet dans le, il y a des articles dans qui déterminent comment le fonctionnaire, quand il fait une faute, comment il est passible à la commission paritaire. Les fautes sont bien déterminées selon darajat, daraja raqm 1, daraja raqm 2, selon la faute, on peut le. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire du statut des enseignants, pour la première fois, ils nous ont rajouté des articles vraiment répressifs et coercitifs. Donc, l'enseignant, par rapport à son élève, quelle que soit la faute avec l'élève, il est passible d'un conseil de discipline. Il peut aller jusqu'à la quatrième sanction, la quatrième daraja, comment dirais-je, la daraja raqmarba. Donc, il peut passer. Donc, c'est grave. Donc, et on est entre les mains de l'élève et on est entre les mains de l'administration. Donc, c'est un statut particulier qui est caractérisé par. Normalement, c'est un statut particulier qui gère la vie pédagogique de l'enseignant. Il est devenu un statut particulier pénal. Il est caractérisé par l'autoritarisme de l'administration. C'est le directeur et ils lui ont donné toutes les prérogatives pour réprimer plus le staff pédagogique. Donc voilà, on est en face d'un statut de pénal, on n'est pas en face. Voilà donc ce qui vraiment pousse les enseignants à être contre ce statut particulier.
Rapidement, sur le déroulement de la grève, Samir Bourdji.
Le déroulement de la grève, la première semaine était vraiment une réussite. La première semaine, le 11 et le 12, à travers le territoire national, on peut dire jusqu'à 70-80%. De suite de la grève. La grève a été bien suivie dans toutes les wilayas et c'est ce que dit mon camarade Boualem, c'est un espoir dont les enseignants et les travailleurs reviennent sur le terrain de la mobilisation et le terrain de la sensibilisation des travailleurs. Cette semaine, c'est toujours programmé parce qu'une grève reconduite. Deux jours reconduits chaque semaine. Cette semaine, c'est le demain, c'est-à-dire le lundi et le mardi. Donc, on a une grève de deux jours, suivie par un rassemblement régional à Tizi Ouzou dans la région du centre, Oran dans la région de l'ouest et Lahouat dans la région du sud et Constantine dans la région de l'est. Donc, le premier jour, c'est une grève. Le deuxième jour, ça sera un rassemblement. Donc c'est ce qu'on appelle on va créer son dos, tsaïd, ce qu'on appelle tsaïd fil idarab. On va créer son dos et l'étape après les regroupements régionaux. Donc après on compte faire un rassemblement national au niveau d'Alger parce que on peut pas accepter un statut particulier pareil et répressif et donc, c'est inacceptable. Donc, le problème, c'est que ce gouvernement, ces pouvoirs, le marasme existe toujours. On ne sort pas de ce point, de ce problème qui est le statut particulier, régime indemnitaire. Il y a toujours des ramifications qui ne donnent rien. Depuis 30 ans, on parle de statut particulier. L'école algérienne et l'enseignant et le travailleur en Algérie, il fonctionne sans statut particulier depuis 20 ans. Mmh. Donc, dans un pays pareil, on fonctionne sans statut particulier qui gère notre vie professionnelle. Mmh. Or, ils ont créé une multitude de commissions pour étudier le statut particulier depuis la période de Mme Ben Ghabaret. On bat Monsieur Abed et après l'autre. Donc c'est toujours chaque ministre qui vient, il crée une commission et pour moi-même j'ai participé à ces commissions en tant que représentant syndicaliste du CLA dans la période de Madame Ben Ghabaret. On proposait, on discutait article par article, mais quand on arrive à l'application, c'est les décisions viennent je ne sais pas où, ils refusent de promulguer Une fois, on s'attendait, pour que dire, la chose est terminée, une fois pour toutes, l'enseignant en Algérie, il a un statut particulier. La grande déception, on est en face d'une grande déception de ce statut particulier. Voilà donc l'état de lieu amer. Donc, on est, donc ça veut dire l'instabilité qui existait. On va voir aussi une instabilité qui est dans le futur. Donc, ça, l'école algérienne va entrer aussi dans une autre période d'instabilité chronique.
Merci, Monsieur Samir Borj. Question pour Monsieur Boualem Ziani. Votre camarade Samir Borj vient de débouquer. Il y a quelque chose qui se produit. Est-ce que je pense que c'est à votre niveau, Boualem. Je vais poser la question, ensuite je vais éteindre les autres micros. Donc, votre camarade Samir Borj vient d'évoquer un certain nombre de points qui figurent dans le nouveau statut, des points positifs. Et même sur le plan des augmentations en matière salariale, il parle de 30%, 30% d'augmentation. C'est vrai qu'il souligne qu'il s'agit d'une seule indemnité, alors que la revendication est portée sur plusieurs. Mais de l'extérieur, comme ça, quand on voit qu'il y a une augmentation de 30%, ça paraît énorme. Je vous cite l'exemple il y a eu une grève ici au Québec qui a duré plusieurs mois, des négociations qui ont duré environ deux ans entre les syndicats de la fonction publique qui comprennent donc le secteur de l'éducation. Et finalement, il y a eu une augmentation de 17,5% applicable sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est-à-dire on parle ici de convention collective qui a une durée de 5 ans. Et sur les 5 ans, c'est 17% d'augmentation plus 1% par année au cas où l'inflation dépasse le 2, quelque chose de taux habituel. Si elle dépasse, admettons qu'elle atteint 3%, donc c'est 1% de plus. Donc, et maximum de ce qu'on pourrait avoir les travailleurs de la fonction publique, donc qui comprennent le secteur de l'éducation, c'est 20%. Après cinq ans de la promulgation de la nouvelle convention collective. Est-ce que le 30% n'est pas suffisant parce qu'il y a un rattrapage à faire par rapport à l'ancienne situation, c'est que les enseignants et les travailleurs de l'éducation d'une façon générale étaient sous-payés. On a parlé aussi d'une augmentation de 37% durant le premier mandat du président Tebboune. Expliquez-nous, je veux dire, pourquoi vous êtes mécontente justement des augmentations salariales ou de l'insuffisance des augmentations salariales.
Oui, ça veut dire, tout d'abord, le statut particulier, ils ont publié deux, ça veut dire le 25-55 et le 25-54. Le 55, c'est pour rapport au statut particulier qui gère un peu la carrière. Tout le monde n'est pas content. Il a cité un peu notre camarade le volet de sanctions. C'est-à-dire, en plus de ce qui existe dans le zéro travail, le statut général de la fonction publique, ils nous ont ajouté beaucoup de textes où il est beaucoup de phrases. Là, il y a la sanction, c'est l'ajl, c'est-à-dire c'est mettre fin à la carrière lorsqu'il s'agit. Et pourtant, en connaissant un peu la littérature des rédacteurs de ce statut, tu peux, comme le 87 bis, ça veut dire, c'est un code pénal bis, au lieu de réduire, au lieu de penser un peu l'école algérienne, il ne pense pas l'école algérienne, il pense à sanctionner, à soi-disant encadrer d'une manière autoritaire, de manière forcée, réprimée, etc., etc. C'est pas ça c'est pas ça la solution. Et le deuxième élément, pourquoi tout le monde n'est pas content, parce que le statut n'est pas fait dans les normes. Par exemple, lorsqu'on fait un statut, on dit que celui qui a le terminal, il va être classé là, celui qui a le bac, il va être classé là, le deuxième, etc., licence, etc. Ça veut dire un peu de justice par rapport, parce que normalement, le statut, il est à base de la qualification. Lorsqu'il est à base de la qualification, C'est étonnant un peu les qualifications, là, une même licence, une même master, etc. Il est pas mal, il est classé différemment des uns ou des autres. Et les mêmes tâches exercées par les uns, il n'est pas, ils sont pas de la même catégorie, même classement, etc. Ça veut dire tout ça. Et pour revenir au régime indemnitaire, il faut que rappeler que le pouvoir d'achat des Algériens, c'est une pauvreté. Ça veut dire nous sommes considérés soit disons comme une classe moyenne, alors que nous sommes une classe qui n'est pas moyenne, qui est non, il est détérioré de jour au jour, vu la cherté de la vie, la cherté des produits et les prix élémentaires, et vu les conditions, vu le salaire et vu la valeur du dinar. Ça veut dire que ça a fait que malgré un peu d'augmentation, mais il augmente les points indiciaires. Il n'augmente pas la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire, il est fixé à 45 dinars depuis des années, des années, des années. Lorsqu'on 45 dinars, c'est quoi 45 dinars? 45, tu peux même pas prendre un café avec 45 dinars. Le café, maintenant, il est à 50 dinars. Le café, comme on voit, la petite tasse du café là, qu'on voit le matin, il est à 50 dinars, alors que le point indiciaire, il est à 45 dinars. Malgré que, ils vont dire, on va augmenter un peu les points indiciaires. Mais ça n'a pas de valeur lorsqu'on débat, on va dire 50 points. Ça veut dire, c'est énorme 50 points par rapport, mais 50 points, tu multiplies par 45, tu vas trouver 900 dinars, même pas, hein, etc. Ça veut dire, c'est ça le comble. Ça veut dire, les gens attendent un peu l'amélioration de leur pouvoir d'achat, amélioration de leur salaire, amélioration de leur statut. Parce que depuis 10 années, un Algérien, un fonctionnaire, on va dire fonctionnaire dans la fonction publique, son salaire est réduit à manger, à acheter, à quoi manger, à se nourrir. C'est ça le comble. On ne peut pas avoir un certain temps, dans les années avant, maintenant, les années 2008, 2008 ou bien avant un peu, il y a l'espoir que les gens achètent des véhicules, investissent, avoir un crédit bancaire. Maintenant, c'est fini tout ça. Ça veut dire on peut pas avoir l'accès à des moyens. Pourtant, maintenant, avec la technologie, avec les besoins élémentaires des gens pour exercer, même l'enseignant exercer, il va avoir les moyens, il va avoir un micro-ordinateur, il va avoir Internet, etc. C'est très cher, c'est-à-dire par rapport au salaire. Alors, notre salaire est réduit à la consommation les plus élémentaires. On peut pas avoir, ça veut dire, un espoir de voyager comme les autres, etc. Et connaissons un peu, et les Algériens sont branchés à l'échelle internationale. Ils comparent un peu nos salaires par rapport à d'autres pays, pour voir un peu leur mode de vie, pour voir, on a des amis qui sont en dehors, je veux dire, qui sont nos propres camarades de classe, etc., qui sont dans d'autres pays. Et ils gagnent bien leur vie, ils ont une vie, etc. Incomparable par rapport à ceux qui sont restés en Algérie. C'est pour ça que nous voyons un peu l'immigration qui augmente. Et tout ça produit que, actuellement, aujourd'hui, j'ai vu que beaucoup d'enseignants qui sont été recrutés comme contractuels démissionnent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et toute la pression qui existe autour de ce statut particulier, ça a créé beaucoup de problèmes. Les gens, ils ont été déçus. Ils essaient de quitter, de démissionner avant d'être intégrés au temps contractuel. C'est pour ça qu'il y a des problèmes énormes. Ça a produit le contraire de ce qu'ils voulaient. Parce qu'il y a un décalage énorme entre le discours promis et la réalité, nous avons lu les deux textes de loi, le 25, 55 et le 25, 54. On a cette déception totale. Dans les établissements scolaires, c'est-à-dire, tu vas remarquer que les gens, ils sont une déception. Ils ont perdu un peu l'espoir. Et ils font que c'est la réalité des gens. En plus de cela, c'est-à-dire, il y a la répression sur leur tête, les libertés syndicales, il n'y a pas de liberté syndicale. Chaque fois avant, lorsque tu as raison, tu formules des revendications justes. Ça veut dire, c'est l'administration qui a tort quelque part, qui a fait on te lève pas le salaire. Ça veut dire, tu as tes acquis et ton revendication. En même temps, ils n'ont pas le droit de passer directement en ponction sur le salaire. Maintenant, direct. Ça veut dire, la ponction sur le salaire, elle est automatique, elle est comme un éclair. Ça veut dire, tu fais la grève le matin, le soir, il y a des listes, il y a des choses qui arrivent, et ils vont t'enlever dans ton salaire. Et enlever le salaire, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, avec le salaire bas, quelqu'un qui touche 3 millions, et tu vas enlever dans son salaire parce qu'il a fait 3 jours de la grève 5 000 dinars, c'est beaucoup par rapport au salaire. Ils veulent casser un peu toute contestation. C'est pour ça que c'est des moments difficiles. C'est pour ça, c'est pas comme ça qu'on fait régler les problèmes. Ils veulent augmenter parce que c'est une question de rattrapage. Même un rattrapage, on est dépassé. Ça veut dire on touche un salaire de misère. Un salaire qui 10 jours, c'est fini. Hein. Les gens, ils te disent, on se demande comment on termine les fins du mois. Les 10 jours, c'est un salaire de 10 jours. C'est pas un salaire d'un mois, 30 jours. C'est pas un salaire d'une chose. Et pourtant, nous avons un discours lorsque quelqu'un te déclare que nous avons des caisses pleines, etc. Ça veut dire, il y a l'espoir un peu de l'augmentation conséquente des salaires. Nous parlons de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de les gens parlent beaucoup de l'éducation. C'est-à-dire, ce qui se passe à l'éducation est transparent par rapport à toute la société, parce que nos salaires ils sont diffusés dans les journaux, etc. Mais d'autres secteurs, il y a d'autres secteurs qui vivent plus que sont plus. Je cite un peu les communaux, je cite dans les corps communs, les œuvres professionnelles qui ne sont pas considérées. Sont pas concernés par le 25-54 régimes du militaire parce qu'ils sont dans la fonction publique. Ils sont parlés des gens qui sont intégrés maintenant, les agents de service qui touchent moins de 2 millions. Hein. C'est misérable. Ça veut dire des gens qui ont une expérience qui n'est même pas comptée dans leur carrière. Et c'est ça, tout ça a fait que ils ont échoué de faire un statut particulier d'une manière. Ils n'ont pas associé tout le monde parce que la méthode, ils créent des commissions qui n'ont pas de sens, c'est pas de crédibilité. Maintenant, ils reconnaissent un peu, ils ont tort parce qu'il y a une contestation, ils ont créé une autre commission d'écoute. Ça veut dire, les syndicalistes, ils ont averti, il n'y a pas de confiance dans les syndicats. Il y a un peu ça, il n'y a pas de confiance. Ça veut dire, tu vas créer une commission pourquoi? Pour un peu écouter les gens. Écouter sans répondre aux revendications. Et c'est le tort dans notre pays. Ça veut dire, lorsqu'il y a eu des revendications des syndicats, comme si ils ont honte de reconnaître que les syndicats formulent des revendications justes et légitimes et les répondent. Ça veut dire, comme si c'est pas des Algériens comme les autres, les syndicats. Et pourtant, nous avons des syndicats, ils sont pas aussi c'est pas des syndicats radicaux, c'est-à-dire qui demandent de la lune, comme on dit. Non, c'est des syndicats qui revendiquent juste, même le titre de l'émission, de la dignité, c'est-à-dire vivre dignement, vivre dans une minute dans son pays, avec un salaire, avec son travail, bien considéré, dans des conditions de travail, bien, dans les conditions de travail des enseignants. On trouve des classes à 67 élèves dans une classe. Alors, 67 élèves, et même pas des chaises où s'asseoir. Et alors, en majorité, plus de 35, 50, 46 par classe, c'est pas dans des conditions de travail, c'est des meetings qu'on fait, après la pression, après les violences à l'intérieur de l'ambiance, et la qualité de l'enseignement dans tout ça. Parce qu'il y a des syndicats corporatistes qui ne posent pas des problèmes il y a beaucoup, je veux dire, le tort des syndicats, qui ne posent pas le problème des conditions de travail, de scolarité. Et nous avons vu le mouvement lycéen qui nous a donné une petite leçon en disant que, attention.
C'était ma prochaine question, justement.
Voilà, par rapport à l'école algérienne. Et ben, le statut ne répond pas. Au contraire, le premier sentiment qu'on a, c'est qu'ils veulent détruire l'école algérienne. Ils veulent détruire ce qui existe déjà. Parce que normalement, on doit réformer, on doit se poser des questions, à débattre un peu quelle est l'école, quel est les défis actuels, comment on va former des élites de demain. C'est ça les vraies questions qui se posent. Quel est le produit de l'école algérienne, de l'université algérienne? Ils sont prêts à relever les défis de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, le développement économique, le développement social, etc. Est-ce qu'on produit ça? C'est-à-dire, c'est ça les vraies véritables questions. Mais le statut particulier ne répond pas à ça. Au contraire, ils veulent museler toute l'expression libre. Ils veulent ne pas avoir des syndicats forts, capables de proposer des choses qui peuvent avancer, parce que les syndicats, c'est quoi? C'est des porte-parole de la base de la misère. La misère des convives, c'est ça le syndicalisme. Ils essayent de traduire par des revendications, ils critiquent, etc., formuler, argumenter, essayer de convaincre tout d'abord la société, convaincre le gouvernement qu'on a raison par rapport aux revendications. Tout le monde, voilà, c'est ça le syndicat. C'est pas, on peut pas inventer les choses. Il faut écouter un peu la base et dire ce qu'ils proposent. Vu les, la conjoncture, la situation politique du pays, la manne financière qu'on a, les conditions sociales dans quelles on vit, dans quelles on travaille, dans quelles on, etc. Et répondre un peu au pouvoir. C'est pour ça que c'est des partenaires, les syndicats en Algérie, c'est des partenaires tranquilles qui essayent d'être du côté de l'administration. Il n'y a pas de rapport entre les institutions, ça veut dire une coupure comme ça. Non, c'est des syndicats aussi tranquilles, si on peut dire ça. Ça veut dire tranquilles qui essayent de revendiquer du manière. Ils essayent 2 jours de la grève. C'est quoi 2 jours de la grève? 3 jours de la grève. C'est quoi 3 jours de la grève pendant combien? C'est au contraire, c'est un battement de la société, ça veut dire. C'est là, on peut mesurer un peu le battement, est-ce que les gens sont satisfaits des politiques exercées par le pouvoir. Lorsqu'ils font grève, ça veut pas dire, c'est pas la fin du monde, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit. Ils font grève, ça veut dire, ça va mal, il faut remédier, il faut répondre par, c'est pas par des statuts comme ça qu'on va répondre, quand le Sénat a cassé, il a fait des textes de loi, et la preuve, ils ont fait le 08-23 pour casser un peu la dynamique, c'est-à-dire interdire les grèves, et il se passe des grèves, parce que les grèves, c'est une expression de la société lorsqu'il y a le haugala. C'est ce qu'on dit, ça veut dire il y a des gens qui révoltent, ils essayent de s'exprimer, ils essayent de faire grève, ils essayent de rassemblement, ils essayent de dire les choses, ils essayent d'écrire les choses. La valeur d'une déclaration, il y a une production énorme de déclarations dans tous ces syndicats, ils ont écrit des déclarations. C'est des choses à valoriser, ça veut dire il faut les lire, il faut y répondre aux revendications exprimées. Ils sont issus des conseils, des débats des conseils nationaux de différents syndicats. Il faut lire. Tu n'as pas besoin de faire une commission et lire les revendications et tu retrouveras les mêmes revendications. L'Ikhtilalat, Touhed Snef, ça veut dire il a une licence et travaille dans un sujet amené à lycée. Il doit avoir une valeur exacte. C'est pas la même. Et plus tu travailles dans un lycée, tu peux augmenter. Et le volume horaire, c'est réduire 2 heures pour les SUM, alors que normalement on doit réduire 16, un décalage de 2 heures entre les 18, parce que c'est pas faisable, parce qu'il y a des enseignants qui travaillent avec 4 classes, ça veut dire 4 heures par jour, avec la moyenne de l'élève par classe, il y a 40 à 45, imagine, ça veut dire l'enseignant, il travaille, ça veut dire il travaille pas dans la classe, 1 heure dans la classe, il travaille dehors, il travaille plus que dehors, ça veut dire pour préparer, corriger, etc. Alors il y a des enseignants qui corrigent 1000 feuilles chaque devoir, notamment son histoire géo, l'arabe, etc. L'histoire géo, 3 matières, 7 classes, 40 élèves. Imagine combien de feuilles il va corriger dans les compositions et devoirs. Ça veut dire, il va passer le week-end. Ouais. Il faut réduire un peu. Et réduire le temps de travail, ça veut dire que tu vas embaucher les Algériens qui ne vont pas quitter le pays. Ça veut dire que tu ouvres le poste d'emploi. C'est comme ça, ça veut dire que tu ouvres le poste d'emploi et tu donnes ce qu'on appelle le partage de temps de travail. Je travaille 22 heures, je vais travailler 16 heures, et 16 heures, 24 moins 16, ça veut dire 2 classes. Chaque enseignant il va libérer un poste d'enseignant et le chômage, il fait rage. Ça veut dire que nous avons vu les plateformes de numérisation. Combien d'enseignants sont demandés à travailler? Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ça veut dire 40 ans, ils sont sortis de l'université. Maintenant, ils sont dans le, parce que c'est un système, la numérisation, par l'ancien diplôme, etc. Ils ont trouvé des postes d'emploi. Il faut les former, il faut essayer de un peu le recycler par rapport à ce qui se passe. Mais lorsque quelqu'un qui n'a pas travaillé, il va arriver à une classe de 40 élèves. C'est pas facile de, nous, les anciens, avons du mal à gérer une classe de 30 à un certain temps, alors 40 élèves, pour gérer toute la classe, et ben il y a des violences maintenant, ça s'exprime aujourd'hui, demain, tous les jours, nous écoutons qu'il y a une agression de l'élève vers l'enseignante, l'enseignante vers l'élève, et c'est normal, ça veut dire qu'on travaille dans un climat où il n'y a pas de conditions de travail, si on peut dire ça, il n'y a pas de conditions d'enseignement. Alors que les gens qui ne sont pas bien formés, pédagogiquement, etc., ça, c'est un problème. Merci.
Merci, vous avez évoqué des classes de 50 élèves. Évidemment, ce n'est pas dans ce genre de conditions qu'on peut dispenser de l'enseignement de qualité. Il y a un internaute qui a rappelé le développement massif des cours particuliers. Donc, même, il dit même dans l'école primaire, il y a des parents qui sont obligés d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées parce que l'enseignement qu'ils reçoivent dans l'école publique est jugé n'est pas suffisant. Pourtant, j'ai lu quelque part que l'Algérie est le premier pays à dépenser autant d'argent dans le secteur de l'éducation en Afrique. C'est le premier pays à dépenser, c'est-à-dire avec le premier budget en Afrique qui est destiné au secteur de l'éducation. Est-ce que ce mouvement de grève qui a été lancé donc dans le secteur de l'éducation a un regard aussi des propositions à faire, des revendications à faire sur ce plan, donc au-delà du statut particulier que vous dénoncez, qui vient d'être adopté, en tout cas que vous dénoncez certains points qui leur enferment, des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Est-ce que les mouvements des syndicats autonomes d'aujourd'hui qu'on constate dans le secteur de l'éducation aussi a des réponses ou des choses à dire sur la qualité de l'enseignement, sur les infrastructures aussi en matière d'enseignement en Algérie? Samir Bord.
Oui, d'accord. Donc, on a l'impression que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, il ne cherche pas à régler le problème de l'enseignant sur sa situation sociale, sa carrière. Apparemment, après la divulgation de ce statut particulier, on n'a rien à espérer. Et quand on n'a pas l'intention de régler le problème de l'enseignant dans sa vie sociale, dans sa carrière, c'est déjà, on a l'enseignant, c'est le pilier dans l'action de l'apprentissage. On veut faire de l'enseignant un pauvre à vie. Donc, il est dévalorisé dans la société, il est dévalorisé par la cherté de la vie, par sa condition sociale. Il ne peut pas acheter un logement, il ne peut pas acheter une voiture, il ne peut pas. Donc, c'est un être qui est dévalorisé. Par conséquent, il ne peut pas assurer sa tâche en tant qu'enseignant. Parce que le métier d'enseignant, c'est un métier difficile et c'est une formation continue. Il a besoin d'être formé parce que c'est un métier qui s'acquit par l'expérience et la formation continue. Avec ce ministère, avec ce pouvoir, on ne cherche pas à régler le problème de l'enseignant. C'est clair, leur intention est bien claire. Dorénavant, c'est ça. L'enseignant, il sera dévalorisé. De l'autre côté, les mêmes responsables de ce secteur, ils ne cherchent pas à régler le problème de l'école algérienne. Dans laquelle les problèmes dans lesquels elle se débat depuis 30 ans. On entend, on écoute qu'il y a des commissions qui préparent la réforme du système éducatif, la réforme du bac, la réforme du système secondaire, mais rien de tout cela n'est réalisé. Donc c'est un gouvernement qui est la fuite en avant et il cherche le. Quand on voit leur intention, ils cherchent le pourrissement. Et le pourrissement, il est au service de l'école qui est en parallèle, l'école privée, où les élèves suivent des études dans des garages, dans des structures qui ne sont pas conformes à l'action de l'apprentissage. Voilà donc ils ont. Les élèves dernièrement, ils ont évoqué le problème de la surcharge du programme et le volume horaire. Comme vous le savez, le programme il est trop chargé. L'élève passe 4 heures le matin au lycée, 4 heures l'après-midi, il est fatigué, il est exténué, il n'a pas d'activité sportive, artistique, ainsi de suite, il est exténué, donc il ne peut pas dans l'action de l'apprentissage, elle n'est pas. Donc, l'ilmi n'est pas assuré. L'ilmi, il n'est pas assuré. Voilà, on a un pouvoir qui s'en fout éperdument de l'école en tant que service public, de la même chose que le système de santé. C'est leur dernier souci. Donc, l'école, apparemment, c'est ce qu'on voit d'une commission à une autre commission. Les enseignants, quand ils posent le problème de leur vie sociale, il crée des commissions. Dernièrement, après juste le déclenchement le débrayage des grèves, Monsieur le ministre, il a installé au niveau du ministère une commission pour revoir le statut particulier et voir le dysfonctionnement qui existe. Il propose au syndicat de s'approcher à cette commission au niveau du ministère pour proposer, donner leur proposition à un éventuel changement. Donc, c'est un aveu clair qui, après combien d'années cette commission travaille, ils n'ont pas fait quelque chose qui est au service des travailleurs et de l'enseignant. Donc, c'est un aveu, c'est un échec que ce statut particulier ne va pas. Parce qu'un statut particulier, il est fait pour une génération, pour 30 ans. Donc, l'enseignant nouveau qui entre à l'école, donc avec ce statut particulier, il a pour 30 ans. C'est un statut particulier qui n'est pas encourageant pour l'enseignant de rester en classe jusqu'à 30 ans. Ça, sur le plan social. Mais sur le plan, sur l'autre plan, c'est l'école, la qualité de l'école. Ce gouvernement, il n'a aucune intention de réviser et de changer vers le changement. Nous, le syndicat du CLA, depuis sa création, depuis les militants, les premiers militants, les instigateurs du CLA, Redouane Asmane et puis Achor Idir, on a toujours travaillé dans le sens de la formation et dans le sens de la proposition concrète. On fait des universités d'été, on fait des ateliers sur le système éducatif, sur le programme, on a fait des ateliers sur la révision du bac, on a fait des ateliers sur la révision du système secondaire. Dans nos rencontres avec les ministres, avec Madame Benabret, on ne parle pas uniquement du volet social et revendications sociales, mais on propose des solutions parce que le CLA apporte un projet syndical, apporte un projet de société. On leur propose des solutions où ils ne font que des promesses, des commissions qui sont interminables. Donc, ils cherchent pas à ce que l'école publique algérienne soit une école publique de qualité et gratuite pour le peuple algérien. Pour votre information, l'école algérienne, on a 8 millions d'élèves. En classe, il y a 8 millions d'élèves. Presque 1 million de travailleurs entre les enseignants et l'administration. Donc c'est vraiment c'est vrai, c'est un secteur budget d'effort il avale un budget énorme, mais la majorité du budget est orientée vers les salaires. C'est vrai, mais il n'est pas orienté vers la formation et le mouvement des dernièrement contre l'enseignant, quand il pose le problème de statut particulier et de sa vie et sa carrière sur tous les plans, il nous fait sortir le problème des cours particuliers. Dans la même semaine, on parle de notre problème qui est le statut particulier. Dans la même semaine, les masses médias, Chorok Nahar, il affiche nos fiches de paye pour dire que c'est les enseignants, ils sont des cupides et des avares, ils cherchent toujours l'argent. Dans la même semaine, ils sortent le problème, le dossier des cours particuliers. Donc, c'est des cours particuliers pour dire que l'enseignant, il bénéficie de l'école publique, en même temps, il fait les cours particuliers. C'est pour brouiller l'écart, c'est une diversion et c'est pour cacher la vraie réalité de la société, de la situation sociale de l'enseignant et du marasme qui existe à l'intérieur de l'école algérienne. Comme a dit notre camarade à l'intérieur, c'est un métier très difficile pour l'enseignant. Un volume horaire très chargé, les classes surchargées, il y a la violence, l'encadrement qui manque, les surveillants manquent. C'est un marasme à l'intérieur. Invivable pour certains établissements, là où il y a des agglomérations, là où il y a des quartiers populaires, les enseignants souffrent, les surveillants souffrent, le directeur souffre pour encadrer les élèves. Donc, ils ne cherchent pas la qualité. C'est un gouvernement qui n'a aucune intention d'améliorer la qualité. Jusqu'à maintenant, la commission pour réviser le système scolaire, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est la fuite en avant. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, c'est pour ce point, si vous voulez, mon camarade, s'il veut rajouter une...
Voilà, je ne sais pas, Boualem, si vous avez quelque chose à rajouter. Avant de poser ma dernière question, d'ailleurs, je vais la poser tout de suite. On a parlé des libertés syndicales, vous l'avez dit. On sait que les deux dernières années, il y a eu adoption de lois relatives à l'exercice des libertés syndicales et du droit de grève. À quel point ces lois-là sont restrictives sur justement l'exercice que vous avez du droit de grève, du droit à la création ou à vous syndiquer, etc. Donc, dans le secteur de l'éducation et d'une façon générale en Algérie.
Oui, c'est-à-dire les textes de loi adoptés, notamment 08-02-2023, normalement, il n'y aura pas de grève. Ça veut dire un arsenal de lois, de textes, d'étapes, etc. Normalement, il n'y aura pas de grève. Et pourtant, il y a la grève. Et pourquoi? Parce que ces textes-là ne sont pas adoptés à la réalité. Il n'y a pas de concertation, tout d'abord, par rapport pas de concertation. Des textes liberticides contre toute expression syndicale, alors que les problèmes ne sont pas réglés. Lorsqu'on dit un budget énorme, l'Algérie, c'est un continent. Il faut rappeler que l'Algérie, c'est un premier superficie en Afrique, et le dixième au monde. On est classé le dixième, je veux dire, malgré que, et notre camarade a rappelé un peu le nombre d'élèves qui existent et le nombre d'enseignants travailleurs, je veux dire, normalement. Mais la manière de le gérer, la mauvaise gestion, et les questions qui ne s'exposent pas. Alors, nous savons tous que l'école algérienne, l'école d'une manière générale n'est pas neutre. C'est un instrument idéologique du pouvoir. Lorsqu'on propose, mais maintenant, est-ce que les syndicats existent en Algérie qui défendent un peu l'esprit tel qu'existait un certain temps en Algérie? C'est pas le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande qu'à l'école algérienne, au minimum, suivons les défis. C'est-à-dire, à la hauteur, on forme des cadres à la hauteur de gérer la situation, à la hauteur de nous rédiger un peu les textes de loi qui sont la traduction des besoins des travailleurs de l'éducation. À moyen terme, on va un peu dire, ce qu'on appelait les experts formés dans les universités algériennes vont nous rédiger un peu, en connaissant un peu la sociologie, etc., vont nous rédiger un peu les textes qui sont applicable, on ne va pas dire à 100% parce que le combat toujours il va continuer. Bah, chaque période a nécessité un combat. Le syndicalisme, ça ne va pas arrêter lorsqu'on va rédiger le meilleur texte du monde. Ça va toujours, il y a des contradictions dans la société, il y a des intérêts différents des uns et des autres. On peut aussi dire. L'exemple, on a combattu un certain temps le fondamentalisme, lorsqu'il y a l'école fondamentale qui a produit ce qu'elle a produit. Mais ça continue d'une même idéologie, hein. Il faut dire la vérité. Ça veut dire, est-ce que l'Algérie, on va continuer comme ça? Avec les syndicats majoritaires, c'est des syndicats issus de l'école algérienne. Qu'est-ce qu'ils vont être dans les cadres syndicaux? Ça veut dire, c'est un produit de l'école algérienne. C'est un article, c'est un produit, ce qu'on appelle l'ordonnance 16 avril 2016. 2016, qui essaye d'idéologiser un peu l'école algérienne, d'arabiser beaucoup plus, ne pas avoir, c'est pas le problème de langue, c'est le problème du contenu de la langue et des trucs. On a tout fait pour que le bac à 5 jours. C'est aberrant lorsqu'on va dire le bac à 5 jours, dans tous les Algériens en même temps. Alors que le nord a un climat, qu'on connaît, le sud a un climat qu'on connaît au mois de juin. Il faut réformer, il faut pas attendre. Quelqu'un qui fait du littéraire, bah parce qu'on est des surveillants, on encadre un peu l'organisation, les bacs que nous avons vu les gens pleurer. Les matériels pleurent lorsqu'il s'agit des matières littéraires. Et les matières littéraires, les gens, les matières littéraires, ils pleurent lorsqu'ils vont passer les mathématiques. Il y a des aberrations énormes dans la philosophie, pour les scientifiques, bac scientifique. Ils vont pas l'étudier, ni au CEM, bien sûr, n'est pas la philo, n'est pas au CEM, ni en première AS, ni en deuxième AS, mais ils vont l'étudier en terminale, ils vont passer le bac avec cette matière, philosophie. C'est des bêtes noires, des matières comme ça, qui déstabilisent. C'est pas des normes qu'on va essayer de juger les gens qui ont un système de notes. C'est pas, il faut qu'on change un peu la matière. Il faut qu'on change un peu le contenu des programmes scolaires. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer que nous avons besoin d'une refonte du système éducatif capable de produire. C'est l'école, c'est pas une mosquée, quelque chose. C'est une école, on va produire les gens qui vont maîtriser les mathématiques. Alors qu'au début, nous connaissons que le niveau du primaire, majorité des enseignants du primaire, ce sont des littéraires. Les matières scientifiques, ils sont enseignés par des... Pourquoi ne pas avoir deux enseignants, les matières scientifiques, un enseignant issu de l'université ou bien de centre de formation scientifique, maths, physique, sciences, etc. C'est des matières scientifiques, enseignées par l'enseignant issu des filières scientifiques. Et celles de littéraire, ils sont enseignées par c'est quelqu'un qui va faire latin arabe, etc. Ou bien d'autres matières qui sont littéraires. Le minimum, on commence. Moi, je suis enseignant du maths. Je connais un peu les difficultés au niveau du CIEM lorsque les gens, quelqu'un qui a étudié chez un enseignant littéraire, latin arabe, etc., qui ne maîtrise pas les mathématiques, on va dire maintenant, les mathématiques, c'est un problème. C'est un problème. Alors, on commence par la base. On intègre, on essaie d'intégrer un peu, de recruter les enseignants pour les primaires, au lieu que quelqu'un qui va faire un seul enseignant de langue arabe plus maths, etc., deux enseignants. Ça commence comme ça commence à valoriser un peu quelqu'un qui enseigne les maths, il va faire aimer les gens les maths, il va faire les matières scientifiques, il va être, et l'autre qui va aimer la littérature, tout le monde va trouver le moyen. C'est des petites réformes comme ça qui nécessitent un peu, pas beaucoup, beaucoup de plus, mais avoir le courage politique et la volonté politique de dire, ben, on a besoin des cadres qui vont gérer cette nation. On n'a pas besoin des gens qui font de la brosse à chaque fois. Parce que le problème en Algérie, lorsque tu es là, on a un peu ce courage autant que ça dégage de dire les choses parce qu'on a rien à gagner, on vise pas des postes. Mais les gens qui ont des postes, ils vont jamais dire les vérités. Même les commissions à l'intérieur, ils vont marcher sur la commande, on va faire comme ça, c'est délimité. Il faut avoir le courage de dire, mais ça ne marche pas au niveau de l'éducation, ça produit pas d'élite capable de dire les choses. Et les gens qui sont là et qui essayent, c'est une fuite du pays. Nous avons vu comment les gens cherchent à tous les moyens à chercher des inscriptions au niveau de l'université, au niveau de terminale. C'est la réalité. Il faut qu'on change. On réhabilite un peu l'enseignement, on réhabilite le travailleur de l'éducation nationale avec un salaire digne, comparable au seul d'autres pays, au pouvoir d'achat. Et ils vont fixer les gens pour travailler en Algérie parce que nous n'avons pas un autre pays de rechange, nous avons un pays magnifique sur le plan naturel, etc. Il faut qu'on valorise un peu, fixer les gens, mais avec leur dignité. Ça veut dire, mais on ne se fixe pas dans la répression, bien dans les sanctions. Non, on les fixe par les conditions de travail, par l'augmentation de leur salaire, et un statut dans la société respectable. On ne demande pas la lune, on demande qu'on soit respecté. L'éducation doit être respectée et n'est pas montée du doigt chaque fois. Et ils ont monté toute la société contre l'éducation nationale. C'est ça, c'est un mot qu'on a. Ça veut dire, l'enseignant, vous avez, parce qu'on ne parle de trop d'enseignants, l'augmentation, alors il n'y a rien concrètement dans nos poches, il n'y a rien de concret. On a porté, après, nous avons beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas des ennemis, mais des gens qui le voyaient d'une mauvaise œil par rapport aux parents d'élèves, la société, les autres secteurs, etc. Alors que l'éducation, on essaie de résister. Ils veulent nous casser. Et leur texte, ça ne sert à rien. Ça n'a pas servi. Actuellement, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi à bloquer un peu les grèves. Il y a des grèves, il y a des mouvements, il y a des contestations. Toujours lorsqu'on trouve les moyens. Ça veut dire, Au lieu de. Mais c'est vrai qu'avant, on faisait des marches, etc., des rassemblements à l'extérieur. À l'extérieur, maintenant, vous avez remarqué un peu, les médecins, ils sont à l'intérieur, ils font les marches à l'intérieur du couloir, et l'éducation font les rassemblements dans le trottoir lorsqu'il est toléré, ou bien à l'intérieur, comme à Bijaya, il est à l'intérieur de l'institution, la direction d'éducation, il y a une cour là-bas qui essaye. Et en dehors, il y a un arsenal policier qui essaie de le primer. C'est pas comme ça qu'on essaye. Et pourtant, lorsqu'on remarque un peu les gens, ils ne parlent sur la retraite, etc. Ça veut dire, vous êtes l'éducation, c'est vous qui vous nous arrachez un peu pour la fonction publique, les acquis qu'on a, etc. Mais en parallèle, ils ne tolèrent pas nos marches, ni meetings, et la grève, parce qu'on va cesser le travail, on assume, ils vont enlever dans nos salaires, on paye chaque fois les gens qui luttent, payent, et c'est un sacrifice, c'est des convictions, c'est une situation à changer par, notamment par l'unité. Je veux dire, il faut que les gens comprennent que les rapports de force, comme ça, divisé, corporatisme, il y a des limites à tout. Il y a ce qu'on appelle les convergences des plateformes de revendication. Chaque corps doit proposer ses points et essayer de créer un rapport de force capable de flécher un peu ce pouvoir et d'avancer un peu dans notre histoire, notre histoire des luttes, notre histoire quotidienne, et régler un peu les problèmes qu'on vit. Parce qu'on vit dans tout le monde est déçu, tout le monde est. Et il n'est pas bien, tout le monde est stressé, tout le monde n'est pas trouvé quelqu'un qui est satisfait dans sa vie.
Merci. Merci, Alain. Dernière, donc, intervention pour Samir Borj. C'est la même question que j'ai posée à Alain Ziani. À quel point les dernières lois qui ont été adoptées, qui régissent donc l'exercice syndical, l'exercice des droits de grève, permet aux enseignants, aux fonctionnaires, aux travailleurs du secteur de l'éducation d'agir, d'exprimer leurs revendications de façon pacifique, de dire aussi leur opinion.
Sauf pour comprendre l'enjeu de la conjoncture, on ne peut pas se détacher de ce qui se passe dans le monde du travail. En dehors du rapport social. Il y a un rapport social, il y a un pouvoir dominant, il y a le peuple qui est vraiment encerclé de partout. Le peuple, c'est-à-dire les travailleurs et tout le peuple. Donc déjà, on commence par le contenu du statut particulier, le contenu. Pour la première fois, ils mettent un petit peu de répression. À l'intérieur du statut particulier, à l'intérieur, il y a des articles coercitifs qui encerclent, qui attaquent l'enseignant, qui attaquent le travailleur, qui donnent plus de prérogatives au directeur qui est le représentant de l'État au niveau de l'établissement pour plus de répression à l'enseignant. On commence par là. On commence déjà. La chose qui gère la vie de l'enseignant, ils ont mis quelques articles pour nous encercler, pour nous attaquer. C'est la première forme de répression. La deuxième forme, d'une manière générale, bien sûr, à partir de l'échec du Hirak, ils nous ont fait sortir l'article 87 bis de l'ordonnance de 2021, qui est venu criminaliser plus largement et sévèrement les revendications du mouvement social et politique. C'est en deuxième, c'est plus large. La loi cadre relative aux droits syndicaux de 2023, le 25 avril 2023, c'est la loi qui cadre le travail syndical. C'est une loi qui presque interdit aux travailleurs de faire du syndicalisme et de créer un syndicat. Il y a des lois qui vraiment ils nous donnent. Il y a le patron, l'employeur doit être présent dans l'assemblée générale. Un homme dessus, un homme tel, donc il y a des lois vraiment qui empêchent la création de syndicats ou de faire du syndicalisme. la loi relative à la prévention et au règlement du conflit 2023-08 de 21 juin 2023. Donc, c'est cette loi aussi qui gère les conflits, c'est-à-dire les grèves, ainsi de suite. Ils ont changé d'une manière à ce que impossible tu fais la grève. Ils n'ont pas encore appliqué, malgré ces lois, ils n'ont pas encore appliqué, mais on fait encore du grève jusqu'à par exemple à ce qu'ils vont appliquer ces deux lois. Je ne sais pas comment le futur du travail syndical en Algérie. Je ne sais pas. Donc ils sont en train de nous encercler pour ne rien dire et pour ne rien. Parce que le travail, leur intention, c'est quoi? Leur intention, c'est de nous effacer en tant qu'entité, de travailleurs, en tant que notre identité sociale. On existe, ils veulent nous effacer, comme si on devient invisible dans la société. On n'existe pas, c'est ça. Ils rendent les travailleurs invisibles, on ne les voit pas parce qu'ils sont dans un projet de libéralisme, l'économie de marché. Donc les travailleurs, ils dérangent, donc il faut les rendre invisibles et passifs, qui ne bougent pas. C'est encore dans la société parce que nous, si on se trouve en tant que travailleur, parce qu'on est de même nature et on est de même intérêt par rapport à l'autre qui est le patron ou qui est l'employeur, ainsi de suite. Ils veulent nous effacer par ces lois liberticides, et c'est contre le travail syndical. Ils ont signé avec le BIT, que le droit international du travail, mais sur le terrain, une sorte des articles qui interdisent le travailleur et l'enseignant, ils nous interdisent de s'exprimer sur notre vie. Parce que ce qu'on fait en tant que travailleur, en tant qu'enseignant, ça nous appartient. Ça n'appartient pas aux gestionnaires, ça n'appartient pas aux ministres, ainsi de suite, c'est notre vie. Et quand on s'exprime, ils nous répriment. Ils cherchent à nous faire taire et on ne peut pas s'exprimer sur ce qu'on fait dans la vie, sur le contenu de ce qu'on a vu. Donc, voilà. Donc, en plus, ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur le contenu. C'est eux qui décident, c'est eux par un esprit de paternalisme sur la vie, même le contenu du système éducatif. Comme on le voit, il a une charge idéologique, comme a dit mon camarade, il a une charge énorme idéologique qui pèse sur l'action de l'apprentissage ou tahsin l'ilmi chez l'élève. Les matières du savoir, dans leur ensemble, ils ont un coefficient inférieur aux matières de ce qu'on a entre guillemets les matières de l'identité. Par contre, on dit les matières de l'identité, c'est des matières à charge idéologique. Donc, ce qui les intéresse, c'est d'inculquer l'idéologie arabo-islamiste, parce que, il faut le dire, il y a un contenu et une charge arabo-islamiste à l'intérieur de l'école algérienne. Un élève scientifique, il passe un profil de sortie avec un profil d'entrée à l'université, il passe pas un vrai scientifique, un faux scientifique. Il passe par les matières littéraires. Donc, il faut changer le. Il faut changer. On est dans un monde comme vous voyez, les rapports de force dans le monde, la stratégie dans le monde. Ce qui compte, c'est le savoir. Dans un pays, ce qui compte, c'est le savoir. Le savoir, ça commence par l'école. Si on veut vraiment créer une économie axée sur l'industrialisation, on ne donne pas de l'importance au savoir. On donne beaucoup plus de l'importance aux matières. Je ne suis pas contre l'identité. Et l'identité, on est des Algériens. L'identité, dans la Constitution, on est des Algériens, on est des Berbères, on est des Amazigh. Et donc, il y a l'arabe qui a sa place dans l'école algérienne. Donc, pourquoi cette charge idéologique ça pèse sur l'élève et qui empêche l'élève d'avoir l'acquisition du... c'est une charge énorme qui empêche l'élève d'accéder au savoir. On est dans un monde d'impérialisme, on est dans un monde les rapports de production des pays où il y a le rapport de production très développé, il écrase les autres peuples. On les voit chaque jour. Les pays qui ont un rapport de production, des forces de production très avancées, basées sur la France, écrasent les autres peuples. Donc, il faut commencer par l'école. Il faut commencer par l'école. La rente ne garantit pas l'avenir. La rente, le pétrole ne garantit pas l'avenir de nos enfants, ni l'école algérienne. On ne sait jamais, d'un jour ou l'autre, le pétrole tombe. Je ne sais pas comment payer les salariés du service de l'école. Et je ne sais pas comment payer la santé, les travailleurs de la santé. Les deux piliers d'un État républicain, les services, l'école en tant que service et la santé en tant que service. C'est des gens qui n'ont pas l'intention de faire une économie basée sur la production, l'industrialisation, basée sur une école scientifique et rationnelle. On doit sortir de l'idéologie. On doit sortir de l'idéologie et construire pour se mettre face par les forces impérialistes qui nous guettent. Donc ça, c'est l'importance de l'école. Et le syndicat, il a son rôle. Le syndicat dans la société, c'est la conscience de la société. C'est la conscience de la société. On propose des projets de l'école. On propose la réforme. Nous-mêmes, on a proposé la réforme du bac. Pour 3 jours. Pour 3 jours, ils ont fait une commission, ils ont oublié, ils ont reculé, ils ont essayé d'avancer un petit peu, ils ont reculé parce qu'il y a les forces intégristes dans la société. Donc, les décideurs, ils ont reculé sur ce point-là. Pour la réforme du secondaire, la même chose. Nous, en tant que syndicat, on a proposé un projet pour réformer le système secondaire basé sur des matières scientifiques bien claires. Un élève scientifique, c'est un élève scientifique qui passe avec un profil scientifique qui passe à l'université. 75% des étudiants en première année à l'université sont recalés. Ils sont recalés et redoublent la première année à l'université. Parce qu'ils ont un profil d'entrée à l'université, un faux scientifique. C'est un faux. Donc voilà, donc les réformes doivent être profondes. Nous, en tant que syndicat, c'est vrai, on pose des problèmes sociaux, on parle de pouvoir d'achat, on parle d'argent, mais on ne peut pas, on ne peut pas survivre sans on ne peut pas. Donc nos revendications, on s'attendait dans le statut particulier comme solution, parce que le monsieur le président, entre guillemets, parce que c'est lui qui décide. Donc, le Gaël, c'est le Qanun Khas lil 'Umal Tarbiya, cette fois-ci, il est au service de l'enseignant, le Morbi. Finalement, Kibdin Al-Qraouh, il n'a rien à voir avec le Morbi. Au contraire, il est avec l'administration, pour renforcer l'administration au détriment de l'enseignant. Mais il n'est pas du tout l'enseignant, le Mourabi. Donc, donc, on a proposé plus de catégories parce que, comme solution, qui encourage l'enseignant, plus de promotion. Comme ça se passe dans les autres secteurs. Par exemple, l'enseignant qui entre à l'université avec une catégorie, après 5 ans, il passe à une deuxième catégorie, après 5 ans, il passe à une troisième catégorie. Quatrième catégorie, cinquième catégorie, on va dire je retraite avec une retraite conséquente. Là, on passe d'une catégorie à une autre avec une formation et non pas avec des concours parce que le ministère organise des concours, pour passer d'une catégorie à une autre, il nous exige des concours et des examens sur table. Là où il y a la triche, avec tous mes respects, les enseignants. Là où il y a la triche, là où il y a... Et encore les postes budgétaires, le ministère ouvre très peu de postes budgétaires. Très peu de postes budgétaires, 4 ou 5 dans la wilaya, lesquels beaucoup de 1 000, 2 000 enseignants passent le concours pour deux ou trois postes, pour deux ou trois postes. Donc, on s'attendait à plus de promotions. On s'attendait à plus de primes et des indemnités et un pourcentage conséquent sur plusieurs. On propose comme solution aussi, on s'attendait aussi que les corps communs qu'on a vraiment négligés combien d'années, donc ils les intègrent dans le statut particulier, dans l'école, donc dans le système éducatif. Jusqu'à maintenant, ils sont avec nous, ils travaillent avec nous dans les restaurants, dans les réfectoires, dans l'administration, mais ils sont l'hagra inani. Ils sont vraiment secondes dans l'hagra inani. Donc on demande à ce que leur intégration. Et l'école algérienne, maintenant, elle fonctionne toujours avec les contractuels. Ils cherchent la précarité dans l'école algérienne. Ils fonctionnent encore. Ils ont ouvert les portes ouvertes pour la contractualisation. Depuis 4-5 ans, des milliers d'enseignants entrent dans les classes. Ils sont contractuels. Oh, ils n'ont aucune formation. Ils n'ont pas de formation. Voilà. Et quand on a l'intention vraiment de la qualité des enseignants, c'est que normalement, dans chaque université, puisqu'il y a dans chaque wilaya des universités, on crée des ENS dans chaque wilaya et on forme des enseignants, parce que le métier d'enseignant c'est un métier qui se forme. Il faut une formation solide, une formation continue même dans pendant la carrière. Par exemple, au lieu des concours, il faut créer des formations, de passer d'une catégorie à une autre catégorie, de préférence, et c'est bénéfique, la formation pour l'enseignant. Et pourquoi les concours? Et les concours, on sait comment un enseignant d'anglais et de français, il passe un concours en arabe, des questions en arabe. Et puis c'est vraiment absurde et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut abroger les concours. Je suis responsable de ce que je dis. Je demande l'abrogation de ces concours. Ils n'ont aucune utilité dans la qualification et dans la qualité de l'enseignement. Il faut les remplacer par des périodes de stage et de formation. C'est bénéfique pour l'enseignant. Un, bénéfique pour l'enseignant. Deux, on demande plus de promotion. On s'attendait aussi à ce que, d'une manière générale, le CNMG soit modifié et augmenté. Il n'y a aucune augmentation de le SMIC, ce qu'on appelle le SMIC. Il reste le même et le pouvoir d'achat est toujours le même depuis, en dégradation d'évaluation. Le dinar est dévalué, le pouvoir d'achat est dévalué. Depuis des années, on est toujours dans le même circuit. Nous, on demande à ce que, dans ce volet, on demande à créer une institution au niveau de l'État qui est qui accompagne les prix, accompagne le salaire, comment, salaire mobile selon la dévaluation du dinar.
Échelle mobile des salaires, c'est ça.
Mars Douatani qui suit le salaire mobile, donc oui. On demande aussi il y a une instance qui suit vraiment les réformes sur le plan pédagogique et ainsi de suite. Donc de tout cela, il n'y a rien. De tout cela, il n'y a rien. Et il n'y a que le bâton et quelques ramifications pour changer la situation et modifier juste une petite amélioration de ces dernières augmentations et puis vont être mangées par la dévaluation. On reste toujours dans le même cas. Le système. Donc l'école algérienne va continuer dans son marasme et la situation sociale des travailleurs et des enseignants, ils vont rester dans leur pauvreté et ainsi de suite. Et comme ça, on ne va pas sortir de l'auberge. Mmh.
Merci beaucoup, Samir Borj. Merci, Boualem Ziani. Donc, Samir Borj, syndicaliste, enseignant au lycée, syndicaliste au CLA. Le CLA, c'est le Conseil des enseignants des lycées d'Algérie. Boualem Ziani, c'est un syndicaliste du SATEF, syndicat algérien des travailleurs de l'éducation et de la formation. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés donc sur la grève dans le secteur de l'éducation en Algérie, sur les réalités des conditions de travail des travailleurs de ce secteur-là, qui accapare, donc, comme vous l'avez confirmé, un budget important donc de l'État, mais qui souffre d'un certain nombre de lacunes, dont notamment les conditions de travail des enseignants et des enseignantes de ce secteur, mais aussi d'une façon plus générale des travailleurs et travailleuses de ce secteur-là. Donc les luttes, elles se poursuivent en Algérie. Malheureusement, on a essayé d'avoir un représentant du secteur de la santé, notamment des médecins, on n'a pas pu. Donc je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des médecins, donc des acteurs, des observateurs des luttes que mènent les médecins, donc contactez-nous, donc on aimerait bien faire une émission aussi sur les réalités des luttes que mènent les médecins en Algérie. Pareil pour les lycéens ou aussi les étudiants en médecine qui ont mené une action pendant plusieurs semaines ces derniers mois. Donc encore merci à vous deux, bon courage dans vos luttes. Oui, Samir, vous avez quelque chose à ajouter? Oui.
Donc je voudrais rajouter surtout le... Voilà, donc la solution, c'est les savoirs et les libertés comme levier au développement. Donc la solution, c'est ça. Il faut axer sur le savoir. C'est par la valorisation des savoirs et des libertés et des voies d'industrialisation en Algérie que l'Algérie pourra espérer une émergence économique durable et une société plus juste. En ce qui concerne la lutte syndicale, c'est la nécessité de coordonner les luttes dans un large groupement, bien sûr, syndical. Et l'objectif ici, c'est de, bien sûr, c'est de satisfaire les revendications, bien sûr, conjoncturelles, et pourquoi pas aller loin pour proposer un projet de société plus large et plus. Et merci pour votre invitation.
Merci, ça fait plaisir. Merci. Oui, Boualem.
Je vais ajouter que on a parlé un peu sur les textes de loi sur les syndicats. Il y a une coordination entre le CSA, même avec le GTA, pour essayer un peu de modifier notamment le 08 23 sur l'exercice d'activité syndicale. Et il y a des discussions pour qu'ils écrivent un peu des lettres, essayer un peu de changer les choses. Et pour le dernier mot, c'est qu'il faut qu'on comprenne, et pour les syndicalistes comprennent que l'essentiel, il faut qu'on ait la liberté de s'exprimer. Je veux dire, la liberté de lutter. Les libertés syndicales sont fondamentales. Les libertés démocratiques, globalement, elles sont fondamentales pour toute expression qui cesse un peu la répression qui exerce. On revient sur les acquis du syndicalisme. Lorsqu'on a raison de revendiquer quelque chose, c'est pas automatiquement une ponction sur le salaire. Je veux dire, on sanctionne. Lorsqu'ils ont échoué à écrire des textes, c'est eux qui vont être sanctionnés. C'est pas le travailleur qui va être sanctionné. Lorsqu'on dit dignité, dignité passe par un poste de travail digne. Ça veut dire, c'est pas des régimes de précarité, notamment de contractualisation et de salaire, etc. Mais il faut qu'on essaye de construire des ponts, les syndicats, même corporatistes, d'élaborer un peu des ponts au niveau des stratégies de lutte, au niveau des plateformes de revendication qui sont les mêmes choses, c'est les mêmes revendications pour tout le monde. Il faut qu'on essaye de construire un peu, il faut qu'on ait conscience que les rapports de force doivent se construire au niveau des syndicats, soit des directions, soit au niveau de la base, pour un peu arracher un peu de... Et l'espoir est permis. Lorsqu'il y a toujours les luttes, il y a l'espoir. Il y a toujours l'espoir qu'on dépasse, on arrache un peu des acquis, vivre dignement, ça va s'arracher, ça va... Ça va être un long combat, mais ça va. Et l'école est vraiment malade. Et nos responsables doivent. On a proposé des assises sur l'éducation nationale. On va essayer de faire un mémorandum de propositions, de débats, ce qu'on pense, qu'on partait. On n'est pas fondé, mais qu'on partait, on va décomposer le système éducatif. On l'a dit déjà, on l'a exprimé, mais on va réactualiser des choses pour que avoir une école, une école publique de qualité et de pouvoir pour tous les enfants du peuple. C'est pas pour les gens qui ont de l'argent à acheter, à avoir des cours particuliers ou bien dans les écoles. Merci. Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. Merci aux internautes qui ont suivi cette émission, qui vont la regarder en différé pour certains. N'hésitez pas donc à la partager, que ce soit depuis le lien de la chaîne YouTube ou depuis Facebook. Et au plaisir de vous retrouver dans une autre émission. Bonne soirée tout le monde.